Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la librairie Mola, où nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Monsieur Rémy Coffert pour la présentation de cet ouvrage intitulé « Les maîtres de l'espionnage » paru aux éditions Perrin. Je tiens à remercier la librairie Mola de m'avoir sollicité, donc d'avoir l'honneur d'être présent ce soir avec vous pour justement entamer cette discussion autour de cet ouvrage qui est passionnant sur un sujet qui est difficile, mais que vous avez su rendre fluide à travers son contenu. On va bien entendu y revenir. Et le Centre national Jean Moulin que je représente était bien entendu particulièrement intéressé à cette opération, puisque dans le cadre des maîtres de l'espionnage, évidemment, tout ce qui est relatif à la question des conflits, qui est au cœur même de notre cœur de métier au Musée national Jean Moulin et au Musée d'Aquitaine, est bien entendu important. Donc, Monsieur Coffert, vous êtes enseignant à l'Institut d'études politiques à Paris, à l'École de guerre économique, à l'Institut catholique d'études supérieures. Vous êtes un historien reconnu, puisque vous êtes également collaborateur au Figaro Magazine, au Figaro Histoire et au Point. Et vous êtes donc historien de l'histoire contemporaine. Et force est de constater qu'aujourd'hui, depuis maintenant 35 ans, vous explorez justement les facettes cachées de cette histoire contemporaine, et en particulier sur la question des renseignements, ce qui nous permet d'avoir le privilège d'avoir des ouvrages de référence sur ces questions et d'autres, comme par exemple l'OAS, l'histoire d'une guerre franco-française, ou un autre ouvrage sur l'arme de la désinformation. Et puis, bien entendu, tout ce qui est relatif à votre thème de prédilection, donc sur l'espionnage, à travers l'histoire politique des services secrets français, ou parfois même des biographies comme Kang Cheng, le maître espion de Mao. Et puis surtout, une actualité littéraire qui est assez riche, puisqu'il y a la sortie, évidemment, des maîtres de l'espionnage, mais il y a aussi également la parution en poche de votre best-seller, l'histoire mondiale des services secrets de l'Antiquité en nos jours. Donc nous avons bien la preuve à travers cette présentation très brève que nous avons affaire ici à un très grand spécialiste et que par cette recherche assidue, vous êtes manifestement très bien renseigné sur le renseignement. Donc si vous permettez, je vais pousser un petit peu pour débuter cette curiosité-là à travers le souhait que vous puissiez vous exprimer un petit peu sur un petit peu plus en détail sur votre parcours. Et puis surtout que vous puissiez nous expliquer à travers le parcours et les choix qui ont été les vôtres, d'où vient et comment se construit une telle fascination pour ce monde de l'espionnage.
Alors, je suis une victime de d'Hergé et de Tintin, étant donné que quand j'étais petit, je dévorais les albums d'Hergé et, comme vous le savez, eh bien, Tintin va partout et Tintin dénoue toutes les situations. Ça m'a donné le goût de regarder derrière les choses apparentes celles qui le sont moins. Et en effet, les services secrets, pour lesquels je n'ai aucune fascination particulière, qui sont un objet d'étude, appartiennent justement à ces choses qui sont derrière la façade et qui sont surtout vécus précisément sous l'angle de la fascination, à travers les romans d'espionnage, à travers les films d'espionnage, James Bond et autres films à grand spectacle. Donc, ce sont justement des films qui ne traduisent pas du tout la réalité de ce monde. Le renseignement est un des facteurs explicatifs de l'histoire. Je ne suis pas complotiste, je ne suis pas parano, je ne regarde pas sous mon lit tous les soirs pour savoir s'il y a un micro.
Il y en a deux.
Là, il y en a deux, mais c'est ouvert. Je ne suis pas complotiste, je ne crois pas que l'histoire s'explique par des secrets terribles, etc. Mais il y a quand même une partie de l'histoire qui s'explique par l'action de ces services secrets. Et tout mon travail depuis effectivement 35 ans, seul ou parfois souvent avec Roger Faligo, une fois avec Jean Guinel pour l'histoire politique des services secrets français, tout ce travail m'a conduit à essayer de déterminer justement cette part que joue le renseignement dans l'histoire, tout simplement.
Donc ça, c'est quelque chose qui ressort énormément de l'ouvrage. On arrive à voir justement comment peuvent s'articuler des faits ou comment peuvent être prises des décisions ou comment on peut arriver à manipuler l'adversaire dans certains cas à travers l'ensemble des exemples que vous prenez. Et il est vrai qu'il est également intéressant dans cet ouvrage de remarquer l'ensemble des sources que vous citez. Il y a une abondante bibliographie à la fin de cet ouvrage. Et ceci nous amène finalement à une autre interrogation sur ce monde finalement du mystère et du secret, savoir comment on peut arriver à retracer une histoire du renseignement, comment on peut arriver à cerner le non-dit, comment on peut contourner le secret défense, la raison d'État, et arriver finalement à reconstituer ce que vous venez de nous décrire, c'est-à-dire les enjeux et les rouages, justement, de ce monde de l'espionnage. Quelle est votre méthode ?
Ma méthode, elle est pas extraordinaire, c'est de travailler et d'être sérieux. Quand vous écrivez des choses sérieuses sur ce domaine, vous avez des gens qui acceptent de vous parler parce qu'ils savent que vous n'allez pas raconter n'importe quoi, que vous n'allez pas vous ruer pour bâtir un roman d'espionnage, en l'occurrence, sur la base de trois choses qui vous ont été racontées, que vous êtes quelqu'un qui essaye de mettre tous les événements et tous les personnages dans leur contexte, d'expliquer, ce qui est logiquement le travail de tout historien, et non pas de faire du sensationnel. De toute façon, du sensationnel, il y en a toujours dans la vie. Donc, c'est pas la peine d'essayer d'en rajouter. Et la méthode, donc, c'est de bosser, parce que plus vous avancez, plus vous avez produit dans ce domaine, et plus des interlocuteurs éventuels sont enclins à vous dire quelque chose de plus, en se disant, celui-là, il va en faire une utilisation intelligente, il ne va pas raconter n'importe quoi avec.
Donc ça, c'est quelque chose qui ressort évidemment à travers l'ouvrage, c'est-à-dire que toutes les informations que nous avons à travers justement parfois des structures, des institutions, des services qui peuvent être parfois très, très complexes, vous avez su les rendre accessibles, et d'autant plus que justement le propos est très clair, parce qu'à travers les éléments de bibliographie que l'on voit et les témoignages que vous avez eus, et ce travail qui a été de longue haleine, l'ensemble de ce sérieux ressort, et pour nous, en tant que lecteurs, la question également de la fascination dont je parlais, par ce biais-là, arrive, parce qu'on sent bien qu'on n'est pas dans cette enveloppe où les choses seraient fantasmées ou ne reposeraient pas sur des choses tout à fait construites. Alors, un autre avantage également de cet ouvrage qui a été finalement votre choix éditorial et qui le rend très, très vivant à travers cette présentation de 55 portraits qui nous permet d'avoir un voyage à travers le globe, hein, parce qu'on voyage à travers tous les continents, les pays, et puis évidemment à différentes époques. Hein, nous, c'est une véritable traversée géographique et chronologique du XXe siècle. Nous traversons évidemment la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les questions de la guerre froide. Nous sommes au cœur des dictatures, notamment en Asie. Nous avons également un grand nombre donc de ruptures qui peuvent apparaître. Et cette présentation des 55 portraits, ce n'est pas finalement un inventaire à la Prévert. Et vous l'avez organisé sous la forme d'un jeu de 7 familles, qui est matérialisé d'ailleurs avec à chaque fois, en chaque une de présentation de ces titres, la représentation donc d'une carte. On va y revenir un petit peu plus en détail, mais nous avons
une carte à jouer.
Voilà, une carte à jouer. Hein, voilà, une carte à jouer, un as. Et dès lors, c'est divisé en 7 familles. Et ça rend effectivement, ça permet de structurer le propos. Ça permet évidemment de mieux contextualiser le rôle et les actions de chacun et de pouvoir avoir le suivi. Donc, est-ce que vous pourriez justement nous éclairer sur l'ensemble de ces 7 familles ?
Alors, ces 7 familles, elles correspondent au type humains que j'ai pu rencontrer, pas forcément physiquement, hein, dans certains cas physiquement, dans d'autres cas par l'histoire, au cours de ces années-là. Évidemment, je commence par la famille des grands chefs, c'est-à-dire ceux qui, selon moi, en essayant d'établir une variété, ont le plus marqué l'histoire. Par exemple, vous avez des personnages totalement inconnus, comme le général Kunein, qui a fondé la NSC, les grandes oreilles américaines, qui a fondé dans les années 50, et qui est un personnage absolument pas connu. On connaît beaucoup mieux, par exemple, Alan Dulles, qui n'a pas été le fondateur de la CIA, mais qui en a été le patron très rapidement, jusqu'à l'expédition désastreuse de la baie des Cochons. Accessoirement, puisque vous avez travaillé pour le centre Jean Moulin, eh bien, on retrouve effectivement Jean Moulin et Alan Dulles pendant la guerre, Alan Dulles étant le représentant de l'OSS, qui a donné d'ailleurs OSS 117 par imitation, mais Office of Strategic Services, qui est le service secret américain du temps de la guerre. Il en est le représentant à Berne et il va jouer un certain rôle en proposant de financer les mouvements de résistance de la zone sud, et ce qui amènera une très forte tension entre ces mouvements et Jean Moulin, précisément. Donc on retombe sur des personnages parfois connus. Ou alors il y a Abdelhafid Boussouf, qui est le fondateur de la sécurité militaire algérienne, le fondateur des services secrets algériens et policier algérien, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un personnage, là aussi, strictement inconnu, qui a été un des dirigeants du FLN, et puis qui s'est écarté. Je crois qu'il était plus sage de sa part de s'écarter, parce que sinon, les autres allaient lui faire un mauvais sort. Vous avez des personnages comme ça. Ensuite, vous avez les grands chefs de réseau. Les agents de terrain, la famille des agents de terrain. Dans cette famille, vous avez une branche qui est celle des grands chefs de réseau, ceux qui, selon moi, ont manifesté l'activité la plus efficace dans ce domaine. Alors, vous avez des gens strictement inconnus. Vous avez un Belge, Walter De Wey, qui, par exemple, a été chef de réseau pendant la Grande Guerre et qui a été à nouveau chef de réseau pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au moment où il a été abattu dans une rue par la Gestapo. Une scène assez spectaculaire que je raconte, et sans pouvoir être identifié. D'ailleurs, il n'avait aucun papier sur lui, donc ils n'ont jamais su qu'il tenait leur bête noire. Vous avez une femme, chef de réseau, que j'ai connue personnellement, qui était une femme assez extraordinaire, qui était Marie-Madeleine Fourcade, qui a été chef, fondatrice, cofondatrice, puis chef du réseau L'Alliance, un réseau de 2500 agents et agentes spécialisés dans le renseignement, dont 440 sont morts au combat. Donc, vous voyez que c'est un métier dangereux. Marie-Madeleine était une femme vraiment étonnante, une patronne. Alors, il fallait la voir avec ses hommes. Alors, des grands gaillards, dont un avait été garde du corps de Gaulle, lui, il avait toujours son pistolet avec lui, ce petit bout de bonne femme. Alors, on n'entendait pas une mouche voler quand elle parlait. Et alors, bon, va nous chercher à boire. Alors, on nous amenait des grands verres du Rhum. Les types étaient complètement subjugués. Elle était la patronne. Ben, vous en avez d'autres. Donc de ces chefs de réseau, Caraman, qui était un chef de réseau roumain à Paris dans les années 60 et qui est devenu par la suite, après l'écroulement de la dictature des époux Ceaușescu, il est devenu le chef de TIE, c'est-à-dire du service de renseignement roumain. Donc il a commencé à Paris. Et puis vous avez la famille des agents. Chef de réseau, vous avez Harvey Darnac, le chef de l'Orchestre Rouge, etc. Et puis vous avez la famille des gens, la sous-famille des gens qui agissent de manière quasi individuelle. Alors, Richard Sorgue, qui est espion évidemment extrêmement connu, espion soviétique au Japon pendant les débuts de la Seconde Guerre mondiale, qui a joué un rôle assez important. Bon, il a été chef de réseau, mais c'est essentiellement un solitaire. Donc, dans la face, cette famille des agents de terrain comprend, si je puis dire, ces deux branches. Et puis, vous avez deux familles que j'ai tenues à distinguer, qui sont celles des exécuteurs des bases œuvres. Nommément, là, en l'occurrence, vous avez Barbie. Vous avez Tai Li, qui était l'exécuteur des bases œuvres de Chiang Kai-shek. Vous avez Carlos, qui vient d'être à nouveau jugé. Et vous avez Ramón Mercader del Río, qui était l'homme que les services secrets staliniens ont envoyé au Mexique pour assassiner Trotsky. J'ai distingué cette famille des exécuteurs des bases œuvres, des agents actions, de la famille des agents actions, parce que les agents actions, s'il y a des personnes que ça intéresse, il y a, j'ai participé à une émission qui est rediffusée ce soir à partir de 20h30 sur la chaîne parlementaire, où on a eu quelques échanges à ce sujet avec le président de la commission de la défense et d'autres personnes. Je distingue ces gens parce que ils agissent, ils tuent parfois, mais ce ne sont pas, à proprement parler, des tueurs dans l'acception mafieuse du terme. Ce sont des gens qui agissent au service d'un État et dans un cadre qui est un cadre de guerre. Alors, ces agents d'action sont très nombreux et de nombreux pays. Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, mais je l'ai mis dans la famille des malchanceuses, mais c'était une agente action aussi, c'est Violette Szabo. Violette Szabo était la fille d'un couple franco-britannique. Son père était camionneur et pendant la guerre de 14-18, il avait rencontré sa mère dans le nord de la France. C'était une jeune femme très très belle, Violette Szabo, et le 14 juillet 1940, les Français libres défilent à Londres, c'est-à-dire 250, je ne dirais pas Pékin, puisque ce sont des soldats, mais enfin 250 bons hommes. Et ses parents lui ont dit, il faut que tu nous ramènes à la maison à déjeuner un de ces garçons. Et son dévolu sur l'adjudant-chef Szabo, qui est un adjudant-chef de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, qui vient de rejoindre les forces françaises libres. Il tombe amoureux, c'est le coup de foudre. Il l'épouse, il part combattre les nazis avec la 13e DBLE, il revient en permission, ils font une fille qui est toujours vivante, Tania Szabo, et lui est tué à El Alamein. Et pour le venger, eh bien, elle entre dans le Special Operation Executive, qui est le service action créé par Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Violette, elle parle très bien français, hein. Elle fait, c'est sa langue maternelle, c'est la langue de sa mère, et elle fait une première mission, une deuxième mission, et elle va y rester à la troisième mission. Elle est parachutée avec un autre agent action dont je parle, qui est Robert Maloubier, qui nous a quittés récemment, qui était un loustique assez étonnant, qui avait créer les nageurs de combat français, et ils sont parachutés voir un peu ce que valent les maquis communistes du colonel Guingouin dans la région de Limoges. Et Violette va se faire prendre, elle sera torturée, violée je ne sais combien de fois, et exécutée en camp de concentration. Donc, parfois, ces affaires actions finissent très très mal. Vous avez des gens strictement inconnus, par exemple Robert Monnier, qui est un ancien combattant de la guerre de 14-18, et il est de gauche, et il s'engage aux côtés des républicains espagnols, ou plus exactement des basques, des républicains basques espagnols, pendant la guerre civile contre Franco. Et il est récupéré par les services français, qui lui demandent de partir en Abyssinie, c'est-à-dire en Éthiopie actuelle, l'Abyssinie a été envahie par Mussolini, pour lutter contre Mussolini, ceci en 1939. Et cet homme monte des opérations de commando contre les Italiens et meurt le 11 novembre 1939. Il meurt de faim et de soif sur les hauts plateaux d'Abyssinie. On n'a jamais retrouvé, on n'a jamais localisé son corps. Vous voyez que ces métiers d'agent action sont parfois des métiers très très dangereux. Et puis vous avez les chasseurs de taupes, les contre-espions. Alors là aussi, j'aurais pu en prendre 50. Je n'en ai pris que quelques-uns. J'en ai pris un qui est très sympathique, qui m'est très sympathique, qui est Robert Jobé, strictement inconnu, sauf des sinologues, car il a écrit des choses très intéressantes sur la Chine sous le nom de sa mère, qui est Robert Magnenose. Jobé est le numéro 2 de la police de la Constitution française de Shanghai. Il entend parler de l'appel du 18 juin. Il part avec un certain nombre de camarades à Londres via le Canada, via Hong Kong qui était encore anglais, et puis le Canada. Il arrive à Londres. De Gaulle le nomme chef de sa garde personnelle. Et puis, Jobé trébuche dans une sombre magouille qui a été montée, ce qu'on appelle l'affaire Howard, sur laquelle j'étais le premier avec Roger à porter des lueurs, et qui est une sombre magouille pour essayer de déstabiliser De Gaulle fin décembre 40, début 41, qui échoue. Et Jobé est envoyé en Afrique. Et pendant toute sa période, notamment à Shanghai, eh bien, il a joué un rôle très très important pour non pas lutter contre les communistes, parce que la plupart des communistes venaient se cacher dans la Constitution française de Shanghai, mais justement pour repérer chez les nationalistes, les communistes et surtout les Japonais quels étaient les agents dangereux. Et puis vous avez des chasseurs de taupes beaucoup moins sympathiques. Alors, parmi les beaucoup moins sympathiques, vous avez Kang Sheng, de son nom d'origine Chen Shaoyun, qui est un dont j'ai écrit avec Faligo la première biographie au monde. Il n'y en a d'ailleurs qu'une seule autre. Enfin, on a refait la nôtre en poche récemment, mais avec des nouvelles précisions. La première avait été, on l'avait publiée en 87. C'est un exemple. Pourquoi est-ce qu'on a eu l'idée de ce personnage? Eh bien, parce qu'on s'est aperçu que personne, qu'il apparaissait partout, mais qu'il n'y avait pas de biographie. Donc, ben, on s'est dit, on veut faire la biographie. Et ce Kang Sheng, c'est vraiment l'organisateur d'un certain nombre de tueries de masse destinées à démasquer les agents du Kuomintang, la plupart du temps imaginaires, et à Yan'an, qui est la base rouge que Mao Tse-tung occupe en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Kang Sheng est un peu fou. Hein. Ils font un séjour à un moment en hôpital psy. Il est limogé par Mao parce que Mao a une particularité. Il fait exécuter ses basses œuvres et après il désavoue. Comme Staline, d'ailleurs, c'est pareil. Après, on fait tomber les types en disant. Et ce brave Kang Sheng, il est mis au placard. Il ressortira pendant la révolution culturelle où il sera le cinquième de la bande des quatre. Celui qui tire les ficelles, celui qui contrôle les faux gardes rouges qui, une fois qu'on a été hurlé, frappé, lynché une personne, spontanément, tout ça, bien sûr, eh bien, vous avez une camionnette qui arrive après pour piquer toutes les œuvres d'art, parce que c'était un grand amateur d'œuvres d'art. C'était un esthète dans son style, mais enfin, pas très sympathique. Alors, vous avez des personnages comme ça, de chasseurs de taupes, vous avez Tamok. Tamok, c'est le chasseur de taupes de Pol Pot, donc qui est dans un univers totalement paranoïaque, parce que vous avez des vrais espions, mais vous n'en avez pas beaucoup, et il passe son temps à détecter des faux espions, des espions de la CIA, qu'on torture dans un lycée qui a été reconverti en centre de torture et qui est maintenant un musée du génocide à Phnom Penh. Et ces gens avouent, alors il y en a un qui avoue, après torture, je ne suis pas un être humain, je suis une bête. Vous imaginez le processus par lequel ces gens étaient broyés. Ils avaient broyé d'autres avant, et ainsi de suite. C'est tout ce système de révolution qui dévore leurs propres enfants. Et puis vous avez la famille des malchanceux et des scandaleux. Ce sont ceux pour lesquels il s'est passé quelque chose qui, du point de vue de la normalité, si tant est qu'elle existe des services secrets, a constitué une déviance. Alors vous avez les malchanceux. Ceux qui n'ont pas de chance. J'aurais pu mettre, par exemple, les époux Rosenberg. Je ne les ai pas mis. Si je fais un tome 2, je les mettrai dedans. Et puis, vous avez les scandaleux. Alors, les scandaleux, il y en a une qui c'est extraordinaire. C'est une nommée Judith Copeland. C'est une Américaine qui est espionne pour les Soviétiques pendant la guerre froide, exactement au même moment que les Rosenberg. Vous vous rappelez que les Rosenberg ont été exécutés sur les chaises électriques en juin 1953. Elle va cumuler tellement de coups de chance que, bien que condamnée par deux tribunaux à 20 ans de prison, elle ne fera pas un seul jour de prison et elle mourra à 92 ans. Elle avait épousé son avocat, hein, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Mais donc vous voyez l'injustice des choses, parce que elle en a fait autant que les époux Rosenberg. Eux sont exécutés et elle s'en tire. Donc vous avez des scandaleux comme ça. Ça fait un scandale aux États-Unis. On n'arrive pas à la condamner parce que le FBI a fait tellement d'erreurs de procédure qu'on ne peut pas la condamner. Et puis vous avez des scandaleux, ceux qui mettent les pieds dans le plat, comme John le Carré. John le Carré a appartenu à deux, David Cornwell de son vrai nom, à deux services secrets britanniques, le MI5, qui est l'équivalent de notre DGSI actuel, et le MI6, qui est l'équivalent de notre DGSE. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le tableau qui donne de ses services secrets les souvenirs qu'il a rassemblés donne pas une image très très flatteuse de ses services, où c'est souvent quand même des pauvres types. Il y a beaucoup d'histoires d'homosexuels, et puis il y a Smiley qui va devenir le patron du cirque, donc du MI6 à la fin. Enfin, Smiley, sa femme l'a quitté pour Bill Hayden, qui est un autre agent dont je parle. J'ai oublié de parler d'une des familles, c'est Kim Philby, qui a été un grand agent double. Alors j'ai fait aussi, évidemment, celle-là j'allais l'oublier, la famille des versatiles. Famille des versatiles, il y a deux branches. Vous avez les agents doubles ou triples. L'agent triple, c'est celui qui travaille pour un service secret, qui infiltre un service secret pour le compte soit du même, soit d'un autre. Vous en avez un qui Henri Déricourt, un Français, qui est un pilote et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, va être à la fois un agent du Special Operation Executive, donc de ces services d'action dont je vous parlais, un agent du SD, du Sicherheitsdienst nazi, et un agent du MI6, vers lequel, en Angleterre, ils sont très gênés par cette histoire, ils ne veulent pas le reconnaître, mais auquel allait sa réelle affiliation, si vous voulez, sa réelle loyauté. Bon, donc ça, c'est un agent triple. Kim Philby était un agent double, mais alors, de quel niveau? Et avec ses quatre camarades de Cambridge, ils ont fait des dégâts absolument épouvantables dans les rangs des services secrets britanniques. Et puis vous avez les dissidents, en quelque sorte. Alors, les dissidents, j'en ai évoqué trois. J'ai évoqué un qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est une vieille histoire. On a fait deux bouquins là-dessus avec Roger Faligaud. On a trouvé la première piste, tout simplement, sur ce garçon par le Minitel. À l'époque où le Minitel commençait, ça ne nous rajeunit pas. Ce Cremet est un communiste. Il est un officier du GRU, qui est le service de renseignement de l'armée rouge, et il opère dans les années 20 dans les arsenaux français. C'est un ancien ouvrier d'arsenal, de l'arsenal d'Indrette en Loire-Atlantique. Et il est repéré, il est obligé de fuir. Il est membre du bureau politique du Parti communiste aussi, et conseiller municipal de Paris. Donc c'est quand même embêtant. Il est obligé de fuir en Union soviétique. Là, il se révèle une mauvaise tête, il renacle au processus de stalinisation. On le sauve et on l'envoie en Chine comme officier du GRU, spécialiste du trafic d'armes. Il fera d'ailleurs des opérations pour fournir en armes les maquis de Mao Tse-tung qui commencent. Et puis ce Cremet, sa foi a vacillé et il déserte. C'est-à-dire qu'après s'être fait envoyer un faux passeport par sa femme à Shanghai, où il est sous un faux nom, le nom d'un commerçant belge, eh bien, il déserte. Il rencontre les Malraux, qui sont venus pour la première fois en Chine. Ils avaient vaguement été à Hong Kong 8 jours au moment où André a écrit « Les conquérants ». Là, ils reviennent. André veut écrire « La condition humaine », ils reviennent. Et il va les accompagner au Japon, aux États-Unis, et revenir en France, vivre sous un faux nom. Et ce garçon, après une existence absolument invraisemblable, mourra en 1973 en Belgique, sous un faux nom, à 800 mètres de l'endroit où il a été blessé en 14-18. Vous avez un autre, c'est Orloff. Orloff est un quelqu'un de l'INO, c'est-à-dire du service extérieur du NKVD, donc du KGB de l'époque de Staline. Et il fait des choses épouvantables pendant la guerre d'Espagne. Et puis, lui aussi, un jour, on le rappelle à une conférence qui doit se dérouler dans le port d'Anvers, à bord d'un cargo soviétique, et c'est en 1938, et il se dit « Bon, je vais peut-être y passer », il décide de déserter. Mais lui, il est très malin, il a accumulé suffisamment de renseignements pour faire chanter Beria et Staline. Donc, il va réussir à avoir la vie sauve. Alors, je raconte comment, en 1969, un officier du KGB qui ne sait même pas qui est ce monsieur, qui enseigne sous un faux nom dans des universités américaines, il est chargé de lui dire qu'on ne lui en veut plus, que toutes ces histoires, c'est des vieilles histoires, qu'au fond, il n'a jamais trahi de vrais secrets. Le type vient sonner à la porte, mais il ne sait pas bien qui est cet Orloff. Il sonne à la porte. La femme d'Orloff sort avec un revolver. Elle dit « Viens pour nous tuer, Sacha, ne lui parle pas ». Bon, le contact se rétablira et Orloff mourra 4 ans plus tard, en 73, sans avoir jamais été inquiété par les Soviétiques. Et vous en avez un autre aussi qui est mort à Cuba dans les années 90, c'est Philippe Edgy. Alors, c'est un ancien officier de la CIA qui est devenu anti-CIA et qui a passé des années à publier à la file, procédé d'ailleurs que je suis loin d'approuver, les noms d'officiers de la CIA en poste dans les différents pays. Donc, il y en avait des dizaines, ils publiaient ça. Il n'avait jamais publié le nom du moindre agent du KGB ou du Guangbu chinois ou de services comme ça. Toujours est-il que c'est cette famille particulière des versatiles, et ceux qui sont des agents double ou triple, mais qui opèrent pour le compte d'un service secret, puis vous avez ceux qui se tirent, qui désertent.
Donc vous voyez vraiment une palette de portraits tout à fait incroyable, et ce n'est là qu'un échantillon, et c'est vrai qu'on est époustouflé à travers certains destins qui sont parfois effroyables, puisque justement sur la famille des grands patrons, vous commencez par la présentation de Beria. On va voir également aussi des choses qui sont tout à fait incroyables, qui ne sont pas toujours obligatoirement sues, mais la position ambiguë de l'amiral Canaris, donc bien entendu, avec ses relations particulière avec Heydrich, et puis sa rupture avec le nazisme et parfois certaines positions de la Boer vis-à-vis des alliés. Et puis, comme vous le décrivez, vraiment, quand on est pris dans cette lecture, des épisodes qui sont dignes de films, mais qui là sont dans le cadre de la réalité. Je pense par exemple à la manière dont le capitaine Connus, à travers en particulier ses agents d'action, réussit à sauver sa vie en se jetant donc dans un torrent et en disant à son futur tortionnaire « Si tu crois en Dieu, ne tire pas », et il se jette.
Il le dit en russe, parce que...
Il le dit en russe.
Le type est russe. Voilà. Oui, c'est une scène...
C'est tout à fait incroyable.
Il l'a raconté à Joseph Kessel, il était ami avec Joseph Kessel. Connus, c'est un Français né à Moscou et dont la mère est russe. Et donc la langue maternelle est russe, comme Joseph Kessel. Et puis, Connus est ingénieur en Afrique, chasseur, et d'ailleurs pas mal braconnier. Et puis, il entend parler, comme beaucoup, de l'effondrement de la France et d'un type à Londres qui ne veut pas céder. Et il s'engage donc dans les forces françaises libres. Il combat à Bir el-Kalim. Il est ingénieur, alors il bricole des canons, des machins. Et puis, on le parachute au Vercors. Il a plus de 40 ans. Hein. C'est pas un jeune homme. Il est parachuté au Vercors. Les nazis, aidés, hélas, par la milice dite française qui qui quadrille le secteur, arrête un grand nombre des maquisards et il est parmi eux. Alors, il dit à un autre, écoute, il faut qu'on bouscule nos gardiens, chacun doit tenter sa chance. Et l'autre lui dit, je peux pas, un lieutenant qui s'appelle Fouillard, lui dit, je peux pas, je suis du pays, ils connaissent nos familles, ils vont se venger sur nos familles. Donc, après avoir tabassé, torturé, on a trouvé à peu près l'équivalent de 30 000 euros sur lui. Alors, évidemment, bon, il dit pas un mot. Et on les emmène pour les exécuter sur une colline. Bon. Et puis, alors, allez, suivant. Il n'y a plus grand-chose qui le rattache à la vie. Et tout d'un coup, il entend le bruit du torrent bas. Et il se dit quand même, je ne peux pas me laisser tuer comme ça, c'est pas possible. Et il remarque à ce moment-là qu'un des soldats allemands, ce sont des soldats de l'armée Vlassov, c'est-à-dire des gens qui étaient dans l'armée rouge et qui sont passés au service des Allemands. Et ce soldat est fasciné parce que connu, c'est une croix. Il a été dépoitraillé de partout, il a été torturé. L'autre voit la croix. Il remarque ça et il entend que ces types parlent russe. Et décidé à tenter le tout pour le tout, eh bien, au moment où on est en train d'exécuter le suivant, il hurle en russe, si tu crois en Dieu, ne tire pas, et il se jette dans le ravin. Et effectivement, le type ne tire pas. Le type tire en l'air, plus exactement. Alors, est-ce que... Et on ne peut pas savoir, est-ce que le type a délibérément tiré en l'air ou est-ce que il a été tellement surpris de s'entendre interpeller dans sa langue maternelle. Vous imaginez, vous êtes l'inverse, vous êtes un Français collaborateur qui est sur le front russe et puis on est en train de tuer des soviétiques. Et puis tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui vous hurle en français, qui hurle en français, si tu prends Dieu, ne tire pas. Je ne sais pas quelle serait la réaction. Donc vous avez des personnages comme ça, vous avez des choses tout à fait étonnantes.
Alors vous avez choisi le symbole de l'as, justement, pour ces maîtres espions. Vous mentionnez que certains d'entre eux sont de véritables virtuoses. Donc au cas où certains d'entre nous voudraient faire une lettre de motivation, quels sont les spécificités qu'il faut avoir pour être un bon espion, d'après vous ?
Ben, d'abord, les motivations. Ben, pour faire n'importe quel métier, il faut être motivé. Ce métier est assez spécial. Il faut des motivations. Les motivations principales sont des motivations d'ordre patriotique, auxquelles se sont ajoutées, au XXe siècle, éventuellement des motivations d'ordre idéologique. Le nazisme et... encore plus le communisme, puisque par internationalisme communiste, des gens, je citais Philby et ses camarades de Cambridge, des fils de la gentry, qui sont recrutés parce qu'ils sont en rupture avec la société. Et ils adhèrent au parti communiste, ils manifestent, ils vont dans toutes les manifestations. Et puis, un jour, quelqu'un approche Philby, dans une circonstance particulière, parce qu'il a été en Autriche, enfin, et on lui dit, tu rendrais un beaucoup plus grand service à la cause en cessant de te manifester et en ayant un parcours classique. Donc, du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, parce qu'il est malin, il prend le temps, Philby, qui était d'extrême gauche, devient plutôt assez proche de l'extrême droite. On l'envoie même faire des reportages auprès de l'état-major de Franco. Il a été chaudement recommandé. Il manque d'être tué par des tirs d'obus républicains. Donc, il devient quasiment un héros d'extrême droite. Or, en réalité, cet homme qui a un mental quand même extraordinaire est un internationaliste. Alors, le mental, justement, il faut quand même être assez solide. Il faut être assez solide pour faire ce métier. Il faut... premièrement, y croire, donc des motivations. Deuxièmement, être assez solide. Troisièmement, évidemment, être capable... Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ces jours-ci, il y a un monsieur dont on s'est aperçu qu'il avait une double vie. Et comme dans les films, il racontait à sa femme qu'il travaillait pour la DGSE, il ne travaillait pas plus pour la DGSE que vous et moi, mais ça ne fait rien, il arrivait à mener une double vie. Eh bien, beaucoup d'agents, évidemment, peuvent être amenés à mener une double vie, il faut quand même être taillé pour ça. Vous parlez de Jean Moulin, j'ai eu des polémiques, parce que vous savez qu'il y a... Il y a eu un moment, Jean Moulin était un agent soviétique, etc. Et ma réaction a été que Jean Moulin était déjà un type extraordinairement structuré, puisqu'il arrivait à mener une double vie, avec sa galerie de tableaux sur la côte, et représentant personnel du général de Gaulle en France occupée. Alors, il m'apparaît que... qu'il ait été capable de mener une triple vie m'apparaît relever du roman, parce qu'il y a des limites à ce que peut faire un être humain. Et la deuxième question que j'ai posée, j'ai dit, mais qui était son officier traitant dans ce cas? Parce que c'était quand même une grosse pointure, il fallait un officier traitant qui soit quand même de qualité, qui le rencontre régulièrement pour lui dire, Jean, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. À mon avis, totalement impossible. Donc... Il faut quand même être structuré pour ça. Et tous ces clandestins, tous ces gens qui étaient dans la résistance, Marie-Madeleine, Fourcade, des gens comme ça, eh bien, étaient quand même formidablement structurés, avaient un culot d'acier et avaient une capacité à avoir l'air normaux alors qu'ils ne l'étaient pas, à voyager normalement, à ne pas porter sur leur visage que... Il y avait quelque chose qui clochait chez eux. Il fallait qu'ils aient l'air parfaitement dégagés, parfaitement à l'aise, comme monsieur et madame tout le monde. Ça demande donc ce type de qualité. Et puis vous avez derrière, parce que vous n'êtes pas espion à titre individuel, vous êtes espion, vous êtes agent secret, vous êtes officier de renseignement, parce que y a des services secrets qui ont recours à vos services. Et il faut évidemment, derrière, qu'il y ait des organisations sérieuses. Il faut qu'il y ait des organisations structurées et que l'individu qui fait du renseignement ne soit pas laissé à lui-même. Parce que la pire chose qui peut arriver à un service de renseignement, c'est évidemment un agent qui craque. Vous en avez une, dont je raconte l'existence, c'était... Umnitza, c'est son pseudonyme, c'était une Américaine, Elizabeth Bentley. Avec son amant, ils ont été pendant des années les responsables de l'interface entre le Parti communiste américain et les services secrets soviétiques pendant la guerre et la guerre froide. Donc elle sait énormément de choses. Et puis son amant, Jacob Golos, meurt et elle craque. Un jour, elle va au FBI et elle dit, voilà, j'ai fait de l'espionnage pendant des années pour les soviétiques, je sais des tas de choses, etc. Alors, bon, vous imaginez, évidemment, les soviétiques n'ont pas beaucoup apprécié les innombrables révélations qu'elle a faites. Mais vous avez aussi des exemples de gens qui passent d'un service secret à l'autre et qui, pour se faire... Bon, au début, ils racontent ce qu'ils savent, et après, pour se faire mousser... Il commence à raconter des histoires, vous en avez, qui ont commis des dégâts épouvantables. Vous avez un russe, Anatoli Golitsyn, il était arrivé à persuader un des autres personnages, un autre de mes chasseurs d'espions, Jim Angleton, un Américain, fils d'une Mexicaine et d'un officier américain qui avait rencontré sa mère pendant l'expédition du Mexique à la recherche de Pancho Villa qu'ils n'ont jamais trouvé. Eh bien, Angleton est devenu le responsable du contre-espionnage de la CIA. C'était un monsieur qui était passionné d'orchidées. Donc, il a même créé une variété d'orchidées qui porte le nom de sa femme. Il était passionné de pêche, donc de patience, de machin, etc. Mais il est tombé sur ce Golitsyn qui passait à l'ouest et il s'est mis à croire tout ce que racontait Golitsyn. Donc, en fin de compte, Angleton a fini par faire plus de dégâts au sein de la CIA, puisqu'il en était venu à expliquer que tout agent qui avait un contact avec un Russe était forcément recruté par les Russes. Donc vous vous dites, à quoi sert la CIA si, pendant la guerre froide, s'ils ne peuvent pas essayer de recruter des Russes? Donc lui, il avait fait la totale, il était devenu complètement fou, mais on l'a quand même laissé opéré jusqu'en 73. Il n'y a qu'en 73 où on l'a mis à l'écart.
Alors tout à l'heure, vous parliez, pour conclure, vous parliez de John le Carré. Il y a une citation assez humoristique qui mentionne un petit peu le flegme britannique. C'est que John le Carré, vous dites, hein, a présenté ce qu'il croyait être, en toute honnêteté, une image complètement déformée du véritable service secret. Et il y a une personne donc qui a fait cette critique de John le Carré en mettant, et c'est tout l'humour britannique, hein, le résultat, c'est que chaque agent étranger qui lit le roman de Chancellor sait avec précision ce que n'est pas le service secret britannique, et savoir ce qu'il n'est pas, c'est déjà savoir ce qu'il est vraiment. Donc on voit que le moindre renseignement est important.
En l'occurrence, ce n'est pas le Carré, c'est Compton Mackenzie. Compton Mackenzie était un Écossais. Il a été un des membres fondateurs du Scottish National Party dans les années 30. Et pendant la guerre de 14-18, il travaillait pour les services secrets britanniques en Grèce. Et puis il veut publier ses mémoires. Et on lui dit non, pas question, interdit. Alors, à ce moment-là, il se venge et il écrit un roman qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle en anglais « Water on the Brain », donc « Hydrocéphalie ». Et il y a effectivement ce dialogue. Il y en a un qui dit « Mais il a donc révélé ce qu'est notre service secret. Il a fait pire, il a révélé ce qu'il ne sait pas, ce qu'il n'est pas. » Donc, vous avez une grande tradition dans le monde britannique d'écrivains lié au service secret qui remonte à l'époque d'Élisabeth Ier d'Angleterre, pas Élisabeth II, hein, Élisabeth Ier. Il y avait en particulier de sources sûres, on sait que Philippe Marlowe, qui était une sorte de François Villon de l'époque, d'ailleurs il a été tué dans une taverne lors d'une rixe, était un agent d'Élisabeth Ier et peut-être Shakespeare. Pourquoi ? Parce que les gens de théâtre se baladaient beaucoup et qu'on leur racontait beaucoup de choses.
Donc, force est de constater, si on a souvent une image de l'espionnage à travers ce que la culture populaire véhicule, hein, nous pensons tous évidemment à James Bond, à OSS 117, pas les dernières versions, évidemment, hein, je parle donc des films des années 60-70, ou plus récemment Kingsman, nous aurons et vous aurez une vision évidemment beaucoup plus précise de ce que sont les maîtres de l'espionnage et de ce qu'est le monde de l'espionnage, donc justement à travers cet ouvrage palpitant. Et veuillez m'excuser de m'être trompé sur John le Carré, vous voyez que dès que l'on donne un faux renseignement, hein, immédiatement, les services de renseignement sont à l'affût. Merci pour cette présentation très complète qui montre ce que je disais tout à l'heure en préambule, l'importance et l'incroyable travail qui a été le vôtre et que l'on prend plaisir à lire. Et nous pouvons continuer cette discussion au cours de la séance de dédicace à laquelle je vous invite évidemment à participer pour découvrir ces maîtres de l'espionnage. Vous ne serez pas au bout de vos surprises. Merci et très bonne soirée.